sur Filth, le podcast qui se demande, fallait-il le faire ? Je suis Alan et aujourd'hui c'est le vote, c'est mon vote. Avec Julien, bonjour Julien.
Bonjour Alan.
Ce n'est pas ton vote aujourd'hui. Bonjour Aymeric.
Bonjour Alan.
Ce n'est pas non plus ton vote, c'est le mien. Et on a aussi Mathieu, bonjour Mathieu.
Bonjour Alan.
Qui est là en tant que spectateur, mais qui va parler aussi un petit peu. Je l'espère. Et qui influencera peut-être ce vote aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien ?
Oui.
Oui, bien sûr.
Super.
Super.
Alors, tu avais l'air très préparé ton introduction sur le fait que ce soit ton vote aujourd'hui.
Oui, parce que
on est sûr de ça ?
Ouais. Oui, on est sûr. On est sûr, c'est okay. Le mien. J'ai attendu assez longtemps pour le faire. Parce qu'avec ces épisodes invités, ces trucs comme ça, là, finalement, on passe jamais à mon vote, à ce que j'ai à dire, moi. Et c'est enfin le jour.
C'est ton jour, Alan.
Voilà.
Allez, profite.
Donc cette saison, moi, je vais l'aborder beaucoup sous le thème du montage. Je m'intéresse beaucoup à ça, comme on en a parlé hors...
Notre conversation WhatsApp peut l'attester.
Voilà, c'est ça, on en a parlé hors émission déjà pas mal. Donc moi, je vais être beaucoup sur le montage cette année dans l'émission. En tout cas, je vais parler de quelques trucs de montage sur le vote. Après, les émissions restent quand même ce qu'elles sont. On aborde plein de points différents, mais voilà. Ça sera quand même ma thématique de la saison. Comme toi, c'est la thématique toujours de la VO.
Toujours.
Et je connais.
Non, on a terminé la VO. On a terminé.
Non, on n'a pas du tout terminé.
On a clôturé. On n'en parle plus. C'est bon.
C'est un fil rouge qui dure sur des années.
Mais tant que le peuple français continuera de voir des trucs doublés français, mon combat ne sera pas fini. Voilà.
Je me souviens même plus de ta thématique cette année, Julien.
Me contredire. Particulièrement.
Ah oui, ouais, c'est pour ça.
C'est la VF.
Ça,
j'aime bien, ouais. C'est la VF, juste pour m'emmerder.
Mais je trouve la question que tu as soulevée de trouver la magie du cinéma, enfin de trouver l'origine de la magie du cinéma, intéressante.
Oui, ça faisait partie des discussions WhatsApp qu'on a eues juste avant.
Spoiler alerte, elle vient de la VO. La magie du cinéma.
Mais pas du tout.
Ben non.
Tu vois que son credo cette année, c'est de me contredire.
C'est ça.
Juste pour m'emmerder.
Non, c'est pas celui-là. C'est la magie du cinéma.
Mathieu, ta thématique cette année ?
Je vous écoute, c'est déjà bien.
Ah, ouais. C'est déjà énorme. Merci de nous écouter. Du coup, la magie du cinéma vient donc du montage, comme vous
disiez. Pardon.
Et je vais développer ça donc. Pourquoi ? Pourquoi la magie du cinéma vient du montage ?
Tu sais que c'est pas parce que tu l'affirmes que c'est vrai.
Si.
T'es au courant de ça.
Non, mais je vais le prouver. Tu vois. Enfin, je vais quand même mettre des arguments quoi. Et ça va être très très facile parce que le montage commence avec Georges Méliès.
Méliès,
c'est mieux de prononcer comme ça. Dans les années 1900, alors faudra. Oui, je sais, c'est ce que je regardais juste avant, en fait, j'ai pas pris les dates. Voilà, je suis désolé. N'hésitez pas à aller faire vos recherches vous-même.
Oui, faites le boulot à sa place. Faites le boulot à sa place.
Mais du coup, le montage, en fait, c'est venu d'une simple erreur. Méliès était en train de filmer une rue parisienne, enfin, je crois que c'était à Paris. Et il y avait des caravanes avec des chevaux qui passaient. Et sa caméra a eu une petite avarie. Elle s'est arrêtée. Il a tapé dessus. Ça a redémarré. Et après, au développement, il s'est rendu compte que, qu'une caravane qui passait a été remplacée magiquement par une autre à ce moment-là. Et c'était la première magie du montage. Et c'est aussi le premier effet spécial du cinéma. Et c'est ça qui a amené le cinéma beaucoup plus loin.
Donc c'est ça qui a même amené le montage au cinéma, finalement.
Oui, tout à fait, ouais. Et aussi les effets spéciaux, en fait, c'est presque double emploi. Donc le montage, c'est un effet spécial en soi, quoi, de base.
Très bien.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que...
Ah,
bah oui. Oui. C'est pas... Alors, parce qu'il y a eu un autre montage, et je crois que c'était avant Méliès. Donc, on est dans les années 1890, 1900, quelque chose comme ça. C'est le premier documentaire, en fait. Et le premier montage est aussi un documentaire, pour le coup. Où c'est des gens qui filmaient à Washington et ils ont réuni les plans, justement, et c'est pour montrer la vie courante là-bas. Et ça a été un peu le premier documentaire et aussi le premier montage, pour le coup.
Et pour les effets spéciaux, au niveau photo, ça existait déjà, la surexposition, la double exposition, enfin de faire des effets spéciaux d'impression sur les pellicules, ça existait d'avant le cinéma, ça.
Alors, je l'ai su, je sais plus si ça vient après ou avant. Je crois que ça existait avant, ouais, de faire des doubles impressions. Ah, j'ai un petit doute. En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai regardé ça en plus. Et j'ai déjà oublié. Mais tant pis, faites vos recherches vous-même. Je ne suis pas là pour ça.
Tout simplement. Si cette émission était pédagogique, ça se saurait.
Bah si, enfin, je vais quand même lancer des pistes pour, de curiosité donc sur le montage. Le montage a pris, à partir de Méliès, le montage a pris pas mal d'ampleur. Il y a tout un langage qui s'est construit petit à petit. Ça a mis un moment quand même avant que ça devienne un outil narratif. C'était vraiment utilisé au début pour faire surtout des effets spéciaux. Et petit à petit, ça a commencé à être utilisé en narratif. Puis voilà, donc il y a tout un langage qui s'est créé. Et vers 1920, en Russie, ils n'avaient pas le droit de filmer à un moment donné, je ne sais plus exactement pourquoi, à cause du régime actuel. Et tous les réalisateurs, du coup, se sont intéressés à étudier le cinéma et à étudier notamment le montage, d'où Kuleshov, qui parle de l'effet Kuleshov. En fait, Kuleshov s'est intéressé au montage cinéma. Et donc, l'effet Kuleshov, c'est quoi? C'est quand tu lis deux plans. Ces deux plans vont avoir un nouveau sens, plus de sens que s'ils étaient séparés. L'effet Kuleshov, c'est en gros, on met un personnage qui est inexpressif, on place une autre image, qui peut être par exemple une image de repas, et on replace ce même personnage inexpressif juste derrière, et ça donnera l'impression que personne a faim.
J'ai vu ça, oui, t'as raison.
Par exemple, on dirait
qu'il
a faim.
Oui, et en fait, si tu prends ce même personnage, mais que l'image d'après, c'est un cercueil,
par exemple,
que tu reviens à l'image de base,
là,
en fait, il est triste.
Qu'il est triste. Ah oui, en fait, c'est nous qui allons interpréter son émotion.
Ouais, par rapport à l'image qu'on montre, je vois.
Et voilà, et ça, c'est un effet important dans le montage. Alors, en vrai, on parle tout le temps de...
Attends, ouais. Pardon, je te coupe. Mais du coup, Kuleshov, tu dis?
Ouais. On parle de l'effet Kuleshov.
Vous voyez toutes ces bandes-annonces-là, où on nous raconte n'importe quoi? Parce que justement, les plans s'enchaînent pour te faire croire à quelque chose qui n'est pas du tout dans le film, en fait.
Ah ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut parler d'effet Kuleshov, là, du coup?
Ça en fait partie, oui, quelque part.
Par exemple, j'imagine une fusillade dans la bande-annonce, en fait, où le héros va... T'as l'impression qu'il tire sur quelqu'un, parce qu'il tire, et l'image d'après, c'est quelqu'un, en combat aussi... Sauf qu'en fait, dans le film, en fait, ils vont
dans
être alliés
film, pas,
ou un truc comme
ça.
Tu vois,
en fait, ils vont allier deux plans qui ne sont pas.
Bon, je pars peut-être un peu loin, mais en tout cas,
tu mets de l'intention d'émotion dans les bandes annonces, c'est ça?
Ah, bah bien sûr.
Ah oui.
Bah oui. Okay. C'est comme ça qu'ils attrapent les gens pour qu'ils aient envie de voir le film. Et souvent, Alors, il y a plusieurs techniques de montage. Il faudra que je retrouve les noms pour faire cette émission comme il faut. Je vous en reparlerai plus tard.
On enregistre la semaine prochaine, si tu veux.
Il y a 3-4 techniques de montage. Le montage en parallèle.
Ce qu'on fait, si tu veux.
Le montage rythmique. Bah, ça y est, je les retrouve les noms. Ah, ouais. Donc, et le montage rythmique, qui est beaucoup basé sur justement le son, la musique, etc. C'est surtout ça qui est beaucoup utilisé en bande-annonce, justement. Pour créer le côté un peu waouh et l'envie de voir le film. Il y a le montage en parallèle, donc ça pareil, en fait, c'est des choses qui nous semblent évidentes, mais que mine de rien, ça a mis des années avant de se construire. Le montage en parallèle, c'est quoi? C'est quand deux actions se passent à peu près en même temps et qu'on les voit les unes après les autres. Par exemple, il y a un voleur qui arrive dans une maison, hop, on passe sur les gens qui habitent dans cette maison, on voit leur vie à l'intérieur et ils ne se rendent pas compte qu'il y a un voleur à l'extérieur. On repasse à l'extérieur, il y a le voleur qui commence à rentrer. Ça, c'est le montage en parallèle. Mais ça, ça a dû être inventé, quoi, y a, mine de rien. C'était pas inné, ce genre de truc. Alors que maintenant, quand on regarde, il y a plein de choses qui nous semblent très naturelles. Et c'est tout ce langage-là qui a été créé avec ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes de narration, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment les bases un peu du montage. Et c'est le fameux cut, quoi. C'est à la base, on coupait la bobine. C'était physique. On coupait la bobine, on reliait deux bobines entre elles pour raconter une histoire. Maintenant, ça se fait tout sur ordinateur. On filme les plans séparément, etc. Mais à la base, c'était vraiment relier des bobines entre elles, quoi. Il y avait quelque chose de très physique. C'est le montage, c'est un assemblement d'images. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus ? Ah oui, que à la base, ça c'est vraiment bien, c'est que c'était surtout les femmes qui faisaient le montage. Et du coup, que la magie du cinéma est plutôt féminin et vient grâce aux femmes, en fait. On parle tout le temps de l'effet Kuleshov, on a l'impression que c'est lui qui a inventé le truc. Alors que pas du tout, il a juste étudié ce qui existait déjà. Et c'était les femmes qui avaient cette sensibilité de raconter des histoires, de créer du sous-texte, de créer de l'émotion. Et ça se fait beaucoup au montage, tout ça, le sous-texte, l'émotion, etc. Le moment où tu coupes, ce que tu montres et ce que tu ne montres pas dans le film. Et toute cette sensibilité-là, mine de rien, c'est une sensibilité plutôt féminine. Il y a plein de très bons monteurs masculins, mais n'empêche, les femmes excellent dans ce domaine. Et il faut le dire.
Très bien.
Une dernière chose par rapport au montage que je vais aborder à chaque fois dans mes votes, c'est les 6 règles de Walter Murch. Alors Walter Murch, c'est un monteur qui est très connu, qui a monté notamment Apocalypse Now, Ghost, vous vous souvenez de Ghost avec Patrick oui. Swayze et...
Demi Moore.
Non, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas gentil. Sérieux, Mathieu, tu te souviens de Ghost quand même?
Oui.
Ah, merci. Heureusement que t'es là, Mathieu.
J'ai dit oui, moi.
À la poursuite de demain aussi. Qui me donne rien. Bref, et Walter Murch, il a créé 6 règles de montage, en fait, qui sont des indicateurs sur ce que tu dois faire quand tu es en train de monter un film, en gros. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ces règles, c'est comme les lois d'Asimov. Vous voyez les lois d'Asimov ? C'est un robot, oui, ne peut pas tuer un être humain. Un robot doit se protéger, sauf si ça va en contradiction avec la première loi. Et les règles de Walter Murch, c'est un peu ça. On essaye d'appliquer les dernières règles, mais sauf si la première règle, c'est toujours la première règle qui prévaut. Donc tu ne vas pas appliquer les dernières si, dans tous les cas, la première est plus importante.
Une des premières n'est pas respectée.
C'est ça, oui. Et donc, je vais parler pour l'instant des 6 dernières, des 2 dernières règles. Il y a 6 règles, donc.
Il va nous proposer des films.
Je ne sais pas.
La règle, numéro 5 et la règle... Ouais, c'est trop long, c'est ça?
Non, pas du tout.
La règle numéro 5 et la règle numéro 6 de Walter Murch, en ce qui concerne le montage, c'est la spatialité. Donc, la règle numéro 6, c'est vraiment la spatialité dans l'environnement. C'est arriver à faire un montage pour que l'on comprenne la position des acteurs au sein de cet environnement. Et il y a certains films, je vous assure que c'est une catastrophe là-dessus. La règle numéro 5, c'est plus une règle de spatialité 2D. C'est la fameuse règle des 180 degrés. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la règle des 180 degrés. Mathieu ?
Non. Non. Celle que tu as brisée dans le montage de,
oui,
ton petit court-métrage.
Tout à fait.
Okay.
Mais vous ne voyez toujours pas ce que c'est ?
C'est un plan inverse.
En fait, c'est quand, lors d'une discussion entre deux personnages, on crée une sorte de ligne imaginaire entre les deux. Et la caméra ne doit pas traverser cette ligne, sinon ça crée une mauvaise continuité de plan.
Un contre-champ, en fait, limite.
Ça brise la continuité, en fait. Mais cette règle est très, très souvent brisée pour justement créer éventuellement lors d'une discussion qui est malaisante, par exemple, ils vont faire exprès de briser cette règle pour augmenter cet effet malaisant, par exemple. Ou s'il y a justement deux personnes qui se disputent, ils vont s'amuser à briser cette ligne pour accentuer le fait que les personnes ne sont pas d'accord, par exemple. Mais généralement, sur une discussion, t'es pas censé passer au-delà de cette ligne imaginaire.
Mais là, c'est pas pour du montage, du coup.
C'est du montage, bah si. Ça concerne la mise en scène, mais le montage, bah si. Si, c'est aussi utilisé dans le montage, ça.
Beaucoup. Mais le montage peut pas replacer une caméra après coup.
Ah non, effectivement, tu fais avec le matériel que t'as. Mais souvent, les scènes sont filmées avec plusieurs caméras, etc. Et du coup, tu peux avoir des caméras positionnées différemment pour la scène.
Si on est en train de nous filmer tous les deux en train de parler, tu as une caméra sur toi, une caméra sur moi, et ensuite le montage se fait par rapport à nos lignes de dialogue.
En règle générale,
ou aux réactions que tu veux montrer.
Ça sera sur la mise en scène où ils placeront bien les caméras et ils éviteront direct de passer derrière.
Mais donc, si tu as une ligne imaginaire et que tu passes ta caméra derrière, c'est que volontairement, tu avais l'intention de briser cette règle au départ.
Ce mouvement de caméra, il est scripté du coup.
En tant que bon réalisateur, si le réalisateur s'y connaît bien, oui. En règle générale, s'il va placer une caméra de l'autre côté, c'est qu'il a l'intérêt de le faire.
Ok.
Et voilà, j'en ai fini en tout cas pour cette première partie sur le montage.
Mais tu as 6 règles, tu as dit ?
Oui, bah les autres règles, je les donnerai sur mes prochains votes.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est on vote pour quoi, du coup ? Sur ces deux règles-là, du coup. Des films qui jouent avec ces règles-là, c'est ça ?
En théorie, à la base, c'était ça.
Alors, moi, je vote pour le montage dynamique.
Je ne suis pas sûr. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc Final Cut, sorti en 2005. The Final Cut, montage, ça va.
On a saisi.
C'était pas facile. De Omar Naïm, je crois, mais j'écris pas bien, alors j'ai du mal à me relire, avec Robin Williams. Et c'est un film assez méconnu de Robin Williams. J'ai été assez étonné. C'est un film techno-noir, donc pas du tout dans le registre comédie, où Robin Williams joue un monteur de souvenirs, donc il fait vraiment du montage, mais avec le souvenir des gens. Et il va être, lors d'un événement, lors d'un montage qui pratique, il va être confronté à ses propres souvenirs. Je vous propose aussi Chapeau melon et bottes de cuir, sorti en 1998, de Jeremiah S. Cheshire, avec Uma Thurman, Ralph Fiennes et Sean Connery. On dit Ralph Fiennes, Fiennes, Emmerich.
Fiennes.
Alors, Chapeau melon et bottes de cuir, ça parle d'agents britanniques qui tentent de sauver le monde, d'un super vilain qui tente de contrôler le climat, enfin qui contrôle le climat même.
Tout simplement.
Je vous propose également Le Bonhomme de Neige, sorti en 2017 de Thomas Alfredson. Alors ce film-là, c'est spécialement pour vous, vous allez être content. C'est avec Michael Fassbender, ouais, et Rebecca Ferguson.
Ah, Rebecca.
Donc c'est une enquête policière où un détective suit les traces d'un serial killer lors des premières neiges d'hiver dans je ne sais pas quel pays. Il faudra voir ça.
Faites vos recherches.
Sûrement en Amérique.
Faites vos recherches.
Je suis très professionnel cette saison.
C'est peut-être pour ça qu'ils ne prennent pas tes films.
C'est pour ça que vous ne vouliez pas que j'enregistre, en fait.
Non, rien à voir. C'est une question de planning, tu sais bien. Ça ne marche pas comme ça.
Et dernière proposition, Patterson de Jim Jarmusch, sorti en 2016 avec Adam Driver. Et donc, ça parle de Patterson, le personnage Patterson, qui est un chauffeur de bus et poète à 16 heures, et qui vit sa petite vie, dans la ville de Patterson.
D'accord.
Voilà. C'est à vous de voter, messieurs.
Mathieu, tu choisis lequel ?
Le Bonhomme de Neige, s'il te plaît.
Ouais. Est-ce que mon avis compte vraiment ? Derrière, c'est vous. Mais tu vois, je me dis Patterson, donc c'était avec Adam Driver, avant qu'il soit très connu.
Je suis même pas sûr.
Ah oui, il a rien. Moi, je connais pas Final Cut.
En 2016. Bah,
t'as le synopsis.
Je pense que c'était la période où il commençait à être connu.
T'as le synopsis de Final Cut ?
Les nouveaux Star Wars, ils sont sortis quand ? Mais oui, c'est une émission cinéma.
Au début des, au début des années 2000. Au début des années
2000. Non, les nouveaux, je crois.
Ah, les nouveaux.
Avec Adam Driver.
Oui, non, mais c'est ça, c'était avant qu'il, un petit peu avant qu'il soit.
2016, par là.
Bah, ouais, c'était le 2010. Début où il était connu alors. Okay.
Back to my question. Ça parle de quoi, Final Cut?
Je l'ai. Alors, c'est. En fait. Donc c'est un film qui se passe dans un futur proche où quand les gens en fait les gens peuvent enregistrer leurs souvenirs et quand ils meurent en fait bah il y a des monteurs de souvenirs qui viennent et puis qui
non ça c'est le film avec Robin Williams
ouais oui, bah, c'est Final Cut.
Final Cut tout à fait
c'est celui-là
tu voulais savoir Patterson non c'est ça
non c'est
ça,
bon
c'est le but ça c'est...
j'avais mal compris pardon
ok.
Ah bah vous me regardez, mais il faut voter hein, maintenant, messieurs.
Bien sûr.
Alors, est-ce que vous voulez supprimer le film, déjà?
Il y a un rapport avec le montage?
Oui, quand même.
La fin de Final Cut, c'est assez flagrant.
Oui, ça, ouais. Pour le coup, voilà. Là, je l'avais.
Voilà.
Mais,
ils ont tous un rapport avec le montage, en vrai.
Voilà. D'accord, donc en fait, ces films ont un montage bien spécifique ou...
D'accord. Ouais, tout à fait.
Mais il y en a un, il y a Rebecca Ferguson, quand même. Ben si, il l'a dit.
Oui, bien sûr. Oui. Non, mais, si elle tue pas d'enfant, moi ça m'intéresse pas.
Est-ce que tu parles d'un film pour l'actrice ou pour le montage?
J'ai quelques acteurs et actrices comme ça, parce qu'ils sont là, je vais voir le film en fait. C'est une règle qui est pas forcément à toute épreuve, hein, mais.
Ah, en vrai, moi, j'apprécie pas énormément cette actrice. Du coup, ça crée parfois des petites dissension. Mais par contre, il est intéressant au niveau montage. Et comme par hasard, elle était dedans. Donc du coup, je me suis dit, ça va leur faire plaisir. Voilà.
Donc sachant qu'Emeric va le regarder dans tous les cas, on peut choisir un autre.
Comme si j'avais le temps de regarder deux films en 15 jours. Quoi.
T'as même pas vu... je croyais que t'avais vu tous les films avec cette actrice.
Non.
C'est pas possible. Non.
J'attends le... Tu sais, le... Donc, l'opportunité.
Mais c'est vrai que c'est une actrice qui revient souvent dans notre émission. Donc, Rebecca, si tu nous écoutes, tu peux venir enregistrer avec nous. On parle souvent de toi.
En anglais, si tu veux.
En anglais, oui, on doit pouvoir faire un épisode VO.
Mais... Oui, bien sûr.
Final Cut, qui l'a déjà vu? Mathieu?
Non.
Emeric?
Non.
Alan?
Oui.
Ok, moi non plus. Chapeau melon en mode de cuir?
Bien sûr.
Oui.
Pas intéressé.
Non, mais tu l'as vu ou pas?
Oui.
Ok. Moi aussi. Le bonhomme de neige.
Très intéressé.
Mais pas vu.
Pas vu.
Je n'ai pas vu, pour le coup.
Pas vu, ok.
Mais alors, du coup, comment tu sais que c'est un montage bien spécifique?
Je sais.
Oui, tout. Wikipédia. Okay. Patterson?
Patterson, pas vu.
Pas vu?
Non plus.
Pas vu?
Je n'ai pas vu non plus.
Pas vu. Ok.
Donc Patterson ou le bonhomme de neige en ce qui me concerne.
Ou chapeau melon en mode de cuir.
Non. j'ai pas envie de voir ce film.
Ça ressemble tellement à des choses qui existent déjà et qu'on a déjà vu et revu, le chapeau melon.
Je vous le dis direct, il fallait pas le faire. Ah, pardon, hein, je vais pas péter l'ambiance ni le suspense, mais là je pense qu'on est sur un bon c'est non.
Bah, je suis assez d'accord avec toi. Là-dessus.
Voilà, hein, donc merci.
Ouais, je suis plutôt d'accord aussi. Hein.
Bon, et ben ça c'est.
Quitte à spoiler le truc.
Moi je le trouvais mignon quand même, il était sympa.
Ok, il y a déjà la réponse pour celui-là, donc il n'y a pas besoin de le traiter.
Ça c'est fait.
Et si jamais je peux même vous dire pourquoi il ne fallait pas le faire celui-là.
Une autre fois.
Non, c'est intéressant. Bah, par rapport au montage justement. En fait, le film a été saccagé au montage. Voilà, tout simplement. Et il y a des scènes qui sont enlevées et qui enlèvent le sens même du film. En fait, il y a des scènes qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des trucs qui ont été enlevés. Et quand tu vois les scènes coupées, justement, tu te dis, bah oui, ça avait beaucoup plus de sens. Mais vu qu'elle n'y est pas dans le...
Ah oui, donc du coup, tu comprends rien.
Ouais, enfin, je sais plus exactement. Tu loupes des trucs. Il y avait une scène bien précise qui ne marche pas du tout parce qu'elle a été juste retirée du film, quoi.
Sans regret, donc.
Ouais. Donc, c'est un de ces films qui a été saccagé par le montage, en fait, en grande partie.
Ok. Donc, effectivement, il est possible que je voie le bonhomme de neige, quoi qu'il arrive. on peut envisager de regarder Patterson, du coup.
Et pas Final Cut, alors?
Non. Je sais pas pourquoi.
Ouais, sur le sujet de la mémoire que tu remontes, il y a un petit côté qui me titille quand même.
Ah oui?
Est-ce que derrière, c'est, moi c'est une vraie question en tant qu'auditeur, là. Là l'objet c'est de traiter le film de par son montage ou de par le contenu du film?
On va traiter du contenu dans tous les cas.
Ouais.
C'est pas, on s'est fixé de ne pas s'imposer un thème à étudier en particulier.
Mais je ne peux pas de toute
mais
façon.
Mais souvent sur le vote, on choisit nos films un peu par thématique. Ouais. Et moi, je me suis dit, je vais vraiment partir sur le montage. Et le film, j'en parlerai au niveau du montage, évidemment. Mais pas que.
Après, moi, je suis bien plus dans l'émotion et dans la manière dont l'histoire est racontée. Donc, alors, effectivement, ça va partir du montage, mais j'en démords pas. Enfin, on en a discuté sur notre conversation WhatsApp. Un bon montage peut sauver une histoire à peu près mal, tu vois. Une histoire qui ne tient pas forcément la route au début, un bon montage peut la sauver. Un mauvais montage, il va défoncer une histoire, une très très bonne histoire. Donc j'entends que les deux sont liés, mais moi, enfin, du coup, pour répondre à ta question, Matt, je vais moins me focaliser sur le montage que sur l'histoire et les dialogues et la manière dont tout ça est raconté, quoi.
Ok. Donc tu vois, moi, par rapport aux échanges, là, je trouve Final Cut vachement intéressant dans le sens où, comme disait Alan, c'est pas un film où on attend forcément Robin Williams.
Il n'est pas très connu.
C'est
un des films où Robin Williams a un rôle sérieux, comme le film aussi. Il a joué avec un tueur.
L'homme bicentenaire aussi.
Will Hunting.
Ah ouais, aussi. Non, il a joué aussi. Enfin, c'est un de ses rôles les plus dramatiques en fait.
Jumanji.
C'est fini, oui. Il a un rôle comme ça, je ne sais plus le titre, où il joue un...
Abdou de Fire.
Flubber.
Un photographe là, qui développe des photos et puis qui...
Good Morning Vietnam.
Qui, c'est bref.
Aladdin.
Je me tais. Ah oui, si, il a joué dans Aladdin en plus.
Donc alors, attends. Soit on a Le Bonhomme de Neige parce que Rebecca. Soit on a Patterson parce que Adam Driver.
Et Jim Jarmusch?
Non.
Non? On n'aime pas Adam Driver?
Bah, c'est pas qu'on l'aime pas, ce... Non, c'est pas...
Bah, il passe après Rebecca.
Genre, mais là, ça, il a fait 65, je suis désolé, il est tombé largement très en dessous de ce
mais
qu'il
t'as
peut
pas
faire,
des
quoi.
Impôts à payer, toi aussi genre, peut-être il avait des impôts à payer, un rappel d'impôts. On s'est dit, tiens, tu veux pas faire un film avec contre des dinosaures? Il a dit, vas-y, c'est payé combien? Ça paye mes impôts? Vas-y, je signe. On est humain, tu sais.
Sur le papier, c'est vrai qu'il vendait du rêve, ce film. Des grosses armes du futur avec des dinosaures, franchement, ça le faisait.
Voilà, bon, c'est passé à côté, mais...
Est-ce que c'est à cause du montage?
Ouais. Probablement, ouais.
Ah bah tiens, c'est pratique. Et Final Cut pour Robin Williams, dans un contre-emploi, on va dire, malgré Jumanji, malgré tout ça.
Et peut-être un de ses derniers films, je ne sais pas.
Il ne connaît peut-être pas l'année de sortie, ni la mort de Robin Williams, c'est trop lui demander.
Tu savais qu'il était mort
Oui, ah, oui, quand même.
Madame de Neige, c'est vraiment le titre qui est mal choisi en français. T'as pas le titre en VO? Non, il n'y a pas le titre en VO.
Il n'y a pas le titre en VO, évidemment.
The Snowman.
T'inventes?
Non, c'est son titre okay. Original. Okay.
On tourne autour du pot, là, les gars.
Ouais.
Il faut se décider.
C'est Mathieu qui va décider, hein, à un moment donné. Si
mais grand bien lui fasse, après tout.
Non. Même si j'ai très envie de voir Ferguson, et je pense que je regarderai le film comme ça, j'enlèverai bien le Bonhomme de Neige.
Ok. Je le vis super bien, pas de problème. Non, en plus, voilà, je t'ai dit, on peut partir sur autre chose parce qu'il y a des chances que je le vois quand même.
Donc, on a supprimé Chapeau Melon.
Oui, ça.
Vous supprimez Bonhomme de Neige.
Oui.
Wow.
Enfin, vous, Julien. Il a déjà barré dans la liste, alors.
Ouais, c'est fini. Il nous reste Fennel Cut et Patterson. J'ai éliminé un film, tu as éliminé un film.
Allez, Matt.
Mathieu.
Bah, moi, j'aime bien l'histoire de Final Cut et le rapport avec ton thème et le rapport avec ce que tu disais, Emric, sur ce côté montage dans le montage.
Est-ce que tu trouves intéressant... Enfin, est-ce que c'est un film qui risque de nous mettre tous d'accord assez rapidement et de bloquer la discussion, ou est-ce que c'est un film sur lequel tu penses qu'il peut y avoir matière à...
Qu'il peut y avoir matière à parler.
Ouais.
Oui, moi aussi, oui.
C'est surtout ça la grande question.
Moi, je trouve ça très, très bizarre, ce pitch. De monter des souvenirs et tout, donc... Il va falloir vraiment m'aider à suspendre mon incrédulité, là, en fait.
Et donc, sur Patterson, on est sur l'histoire d'un personnage dans sa ville.
Mais ça, justement, c'est ça qui est intéressant dans ce film aussi, c'est qu'apparemment, toute l'histoire est là, c'est juste... Patterson, qui est dans une ville. C'est un film un peu feel-good, je crois. Et ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est juste quelqu'un...
Qui s'appelle Patterson.
Qui s'appelle Patterson, c'est un chauffeur de bus. Et puis, il écrit des petits poèmes, des machins comme ça. Et
Il habite la ville de Patterson.
Ouais, c'est ça. Et ça m'intrigue beaucoup, parce qu'apparemment, enfin, toute l'histoire se résume à ça, quoi.
Il a une copine qui s'appelle Patricia, et du coup, quand elle arrive, Patterson...
Ouais. T'as fait du théâtre d'impro, non? Ok. Bon bah, Final Cut, si on écoute Matt, puis je suis assez d'accord avec ce qu'il dit.
Je suis partant. Final Cut, c'est bon pour moi.
Allez, Final Cut.
Final Cut, c'est voté. Alors si merci jamais Alan. Le bonhomme de neige, c'est le montage est catastrophique hein, sur le film. Comme ça,
ah merci. Oui bah c'est super. C'est super. On n'a rien demandé.
A priori. Ouais non mais comme ça vous savez. En fait, Patterson, c'était l'inverse. Apparemment, le montage était vraiment très, très intéressant sur ce film. Donc, c'est pour ça. Moi, personnellement, il faudra que je le regarde, du coup.
Tu cherchais à ce qu'on choisisse Ferguson pour dégoûter Emmerich de cette actrice.
Comment oses-tu ?
Pas du tout.
Dit-il alors que sa tête fait oui. C'est incroyable. Sa tête
oui, mais les gens ne le voyaient pas, ça. Vous n'êtes pas obligé de le dire.
Putain, le langage... Sa tête dit oui et dit pas du tout. Ah là 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 là.
C'est ta théorie, voilà.
De toute façon, on est à quoi ? On est au quart de la troisième saison, on connaît nos tactiques de manipulation, là, ça y est. Je pense qu'il va falloir qu'on se force à renouveler notre technique pour manipuler les autres, parce que vraiment, là, ça commence à se voir. Il va falloir qu'on réfléchisse comment on peut se...
J'ai pas été influencé. Moi.
C'est vrai. Tu es encore vierge de toute manipulation.
Il a un peu influencé quand même aujourd'hui.
Non, parce que c'était... la liste vient pas de lui, déjà. En général, celui qui influence, c'est toujours celui qui propose. Et puis, ça avait du sens, ce que tu disais, Matt. Donc, à moins que vous soyez de mèche, tous les deux, Matt et Alan.
Allez savoir.
Il y a une pause toilette commune.
Ouais, il y a eu... sachant qu'il n'y a pas de place pour deux dans mes toilettes.
Voilà, c'est ça.
On n'a pas eu le temps d'en parler, des films. On le coupera au montage.
Merci.
Et bah sur ces belles paroles.
Merci beaucoup.
Messieurs. Merci Mathieu. Merci.
Merci.
À la semaine prochaine.
Merci de nous écouter.